Nous sommes le lundi 25 septembre sur le 101.5 de Radio G. Il est 19h et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb au programme de ce soir, des jeux vidéo, des jeux de société, des copains et plein d'autres choses. Attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Je l'ai déjà dit il y a quelques instants, il est 19h, vous êtes bien dans la case de Seb. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Alors une saison qui commence de manière un peu particulière, parce que j'avais prévu de ne faire que des émissions enregistrées. Et si vous m'écoutez, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. Je suis bien dans le studio ce soir. J'espère que vous allez passer un bon moment avec moi pendant cette heure. J'ai zappé mon générique habituel, puisque par le truchement des ondes radiophoniques, on va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Donc, je suis tout seul ce soir, et je vais vous parler jeux vidéo. Ah oui, case de Seb, jeux vidéo, vous dites, mais oui Seb, c'est forcément raccord. Eh bien non, parce que du coup je fais un petit peu n'importe quoi. Et quand je n'ai pas trop de choses à lire, eh bien je me mets à faire un peu de jeux vidéo. Alors vous me dites, ouais mais Seb, c'est pas trop le thème. Eh bien si, puisque je vais vous parler d'un jeu vidéo qui est relié à de la bande dessinée. Et puis comme je fais un peu n'importe quoi, je voulais vous parler aussi des prochains projets que j'allais faire pour cette nouvelle saison. Et j'ai complètement zappé. Donc le but de cette nouvelle saison va être de vous apporter des nouveaux dossiers pour pouvoir parler de sujets de fond, de sujets qui ont rapport avec la BD. J'avais fait des interviews d'auteurs, je vais continuer à faire des interviews, mais je vais aussi vous parler de plein de choses qui vont être complètement différentes, et ça va être l'occasion de parler de sujets de fond. On pourrait citer par exemple un sujet tout aussi intéressant comme le dessin par intelligence artificielle. Est-ce que c'est vraiment du dessin? Qu'est-ce que c'est que la BD numérique, ou encore plein d'autres choses. Donc on va voir ce qu'on peut avoir, et le but ce sera de pouvoir avoir des intervenants pour pouvoir vous parler de ces choses lors de l'émission. Bref, on parlait jeux vidéo qui sera certainement un thème qu'on va pouvoir aborder, bande dessinée et jeux vidéo. Alors vous vous dites, oui mais Seb, alors du coup jeux vidéo n'est pas bande dessinée. Eh bien, c'est un petit peu vrai. Ce dont je vais vous parler n'est pas un jeu vidéo issu de bande dessinée, mais un jeu vidéo issu de manga. Et aussi issu d'une série animée que j'aime beaucoup, qui s'appelle Made in Abyss. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Made in Abyss? Oui, non, peut-être pas. Si c'est pas le cas, je vais remédier à ça. C'est un manga qui m'a beaucoup plu. J'avais déjà chroniqué ce manga il y a ça un petit moment, parce que j'avais vraiment adoré ce manga pour plein de raisons. Alors, je vais essayer de faire court, parce que je pourrais passer plusieurs heures sur ce manga. C'est un manga d'Akihito Tsukushi qui est publié en version française aux éditions Ototo, et qui raconte une histoire assez simple. C'est l'histoire d'un abysse. Il y a marqué Made in Abyss, hein, ça, un petit peu parlant. Et cet abysse est situé sur une île, et il y a une espèce de village qui a commencé à prospérer autour de l'île. Et cet abysse renferme un secret particulier. Il contient certains artefacts qui sont comment dire, qui ont des capacités, des pouvoirs qui sont parfois on sait assez peu de choses au final. Et puis cet abysse est très très profond. Et dans le plus on va profondément dans cet abysse, et ben plus on peut trouver des artefacts puissants. Alors comme toute chose puissante, c'est des choses qui sont rares, et comme toute chose rare, ce sont des choses qui ont beaucoup de valeur, et comme toute chose qui génère de la valeur, eh bien il y a un commerce qui s'est créé. Mais c'est dangereux d'aller au fin fond de l'abysse. C'est quelque chose qui nécessite un équipement particulier et une préparation particulière. Et il y a des gens qu'on va appeler les caverniers, enfin qui s'appellent les caverniers, qui descendent dans le fond de cet abysse pour pouvoir récupérer des artefacts et explorer tous les secrets qui s'y trouvent. Et dans cet abysse, il y a une particularité, c'est le mal des abysses. Le mal des abysses, c'est l'équivalent des paliers de décompression que vous pouvez trouver dans les... je vais y arriver, quand vous faites de la plongée. Et ces paliers de décompression, ils sont très dangereux quand vous êtes... quand vous faites de la plongée. Et ben là, c'est exactement la même chose. Quand vous sortez et quand vous remontez d'un certain niveau de l'abysse, vous subissez des effets qui vont du simple malaise, des nausées, vomissements, maux de tête, à des choses beaucoup plus hardcore, comme bah, par exemple saigner par tous les orifices que vous pouvez avoir. Et encore, ça, c'est pas le pire que vous puissiez subir. Donc, quand je vous dis que c'est dangereux d'aller dans l'abysse, bah, c'est pas une blague. Hein. C'est vraiment quelque chose de très dangereux qui nécessite des compétences particulières. Et donc, ces caverniers, quand ils descendent, eh bien, ils sont classés par... par niveau, et les niveaux sont symbolisés par des sifflets. Quelqu'un qui n'a jamais été initié porte une petite clochette, et les sifflets vont changer de couleur jusqu'en passant du sifflet rouge jusqu'au sifflet blanc, les sifflets blancs étant des caverniers légendaires, étant descendus quasiment à la fin de l'abîme, mais à la fin de l'abysse, mais qui en sont toujours revenus. Alors vous me dites, Seb, c'est bien de nous présenter tout ça, mais qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, ça raconte l'histoire de Rico, une jeune fille qui vit dans l'orphelinat situé sur le bord de l'abysse. Si vous avez bien suivi, comme c'est très dangereux l'abysse, bah, y a beaucoup d'enfants de caverniers qui ne revoient jamais leurs parents et qui sont donc par conséquent des orphelins. Et puis un jour, Rico va recevoir un ballon. C'est des espèces de petites montgolfières qui sont envoyées pour pouvoir... communiquer avec les étages sans forcément être obligé de remonter. Et dans ce ballon, dans ce message, elle découvre que sa maman, qui est un sifflet blanc, serait en train de l'attendre au plus profond de l'abysse. Bah, comme tout enfant, elle a une réaction assez logique. Je vais aller retrouver maman. Bah ouais, quand on est un sifflet bleu et qu'on a aucune expérience, eh ben on se dit qu'on peut très très facilement rejoindre le fond de l'abysse pour retrouver sa maman. Elle va être accompagnée dans ce périple par un jeune garçon robot qui s'appelle Légu, qui est grosso modo une sorte d'artefact vivant que personne d'autre n'a vu auparavant et qui a quelques capacités, notamment un bras extensible capable de lancer des rayons laser. Enfin bref, c'est pas pour ça que ça va bien se passer, ni être simple de descendre dans le fond de l'abysse. Bref, Rico et Légu commencent à descendre et c'est le début, c'est quasiment les trois premiers épisodes de l'animé. L'animé comporte actuellement deux saisons, la deuxième saison est en cours, il y a eu un gros gap entre les deux saisons. C'est un animé qui est vraiment super joli, très mignon, il y a un dessin qui est très stylé, mais c'est pas forcément pour les enfants. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a deux secondes, je viens de vous dire qu'on pouvait, en remontant de l'abysse, se vider de son sang par tous les orifices. On vous épargne pas ça dans l'animé. Ni dans le manga. C'est un petit peu le paradoxe qu'il y a entre les deux, c'est qu'on a un dessin qui est très mignon, très rond, très agréable, mais que le sujet implique des enfants, implique des morts violentes, et c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Le manga papier est publié aux éditions Ototo, qui est vraiment le bouquin est vraiment très très bien fait. C'est des bouquins qui sont on va pas dire fins parce que c'est pas le cas, mais ils sont hors format par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir sur du manga classique, c'est vraiment un manga qui est très très beau. Je parlais d'un dessin qui était mignon. C'est un dessin où tout est travaillé en nuveau de gris et qui donne une vraie impression de profondeur, une vraie impression de couleur, simplement en regardant des pages qui sont en niveau de gris, et c'est vraiment un truc de dingue. Donc moi je vous invite vraiment à lire Made in Abyss, et puis découvrir le jeu vidéo, puisque c'est un petit peu ce que je voulais faire, mais comme c'est un manga qui me passionne, je vous ai parlé de plein de choses avant. Le jeu vidéo, alors moi j'y joue sur la petite console de Nintendo, parce que c'est ce que j'ai à la maison, ça marche très très bien. Donc ça vient de sortir, il y a une version collector qui existe, que je ne vais pas vous détailler parce que je ne l'ai pas, moi je suis juste sur la version de base. Le jeu s'appelle Binary Star Falling into Darkness. On va reprendre le concept du jeu d'exploration, où on va incarner un personnage qui va pouvoir aller dans l'abysse explorer et accomplir des missions. Alors, pour être honnête et transparent, il y a deux modes de jeu. Un premier mode de jeu où on va refaire l'histoire de Rico et Légu, qui fait office de tutoriel, un tutoriel un peu bancal, puisqu'on va raconter une histoire avec des passages animés, mais on va nous faire découvrir les gros éléments principaux du jeu. Et il y aura un autre mode qui va s'appeler Deep in Abyss, et dans lequel on va créer un personnage qui va vivre une vraie aventure, dont le but étant de finir Sifflet Blanc, donc de descendre quand même très très profond dans l'abysse. Pour détailler un petit peu plus le jeu, ça va vraiment être un jeu de survie-exploration. En gros, on va vous bazarder dans l'abysse avec une mission ou pas, ou des fois des missions très vagues, et on va vous dire débrouille-toi. Alors quand on dit débrouille-toi, ça va être très simple. Vous avez un sac à dos, vous avez éventuellement une arme, vous avez une pioche qui vous permet de creuser, et puis vas-y, survie. Tu fais ta bouffe, tu fais ton équipement, tu gères ton sac à dos, et surtout, si t'as besoin de survivre, tu remontes, parce que t'as pas vraiment le choix. Et du coup, le jeu est vraiment très très dur, parce que c'est vraiment en mode survie. L'espace du sac à dos est optimisé au maximum. Alors, est-ce que vous ferez le choix de conserver une arme ou de la bouffe? C'est un choix qui peut être très très important, puisque sans armes, vous n'allez pas pouvoir lutter contre des créatures, et les créatures vont pas pouvoir vous permettre d'avoir de la nourriture que vous allez pas pouvoir cuisiner pour pouvoir la consommer, sachant que vous allez avoir non seulement une barre de vie qui va représenter les dégâts que vous prenez, mais aussi une barre de satiété et une barre de fatigue. La barre de fatigue, elle va se recharger toute seule, mais la barre de satiété, si vous mangez pas, elle s'épuise au fur et à mesure. Et quand vous avez plus de barre de satiété, c'est un petit peu compliqué, parce que non seulement votre barre de fatigue, elle va être complètement flinguée, et en plus, votre barre de... vous risquez de mourir, tout simplement. Donc il y a tout un équilibre à avoir, il y a tout un tas de choses à prendre en compte pour pouvoir survivre. Et vous allez vous rendre compte que vous allez faire plein de petites missions sans aller trop loin au départ, puis de plus en plus loin, de plus en plus loin, et puis à un moment vous allez prendre un petit peu trop d'assurance, et là, c'est le drame, parce que vous n'avez pas fait gaffe à un élément, et vous êtes mort bêtement. Alors mourir, ça, je peux vous assurer que vous allez mourir un certain nombre de fois dans ce jeu. Le jeu... met aussi en scène certaines des morts de manière tragique et graphique, ce qui en fait un jeu non destiné aux plus jeunes. Je crois même que c'est un des rares jeux qui doit être labellisé plus de 18 ans sur Switch. Il ne doit pas en avoir tant que ça. Et c'est malgré, encore une fois, un graphisme très enfantin, c'est pas un jeu qui est destiné à tout le monde. Donc c'est un jeu que je conseille, qui est vraiment très très bon, qui va vous enchanter, parce que visuellement c'est très joli, graphiquement il y a beaucoup de choses qui donnent l'impression d'être immergé dans un dessin animé, il y a des passages complètement dessinés, ce qui rend le truc vraiment agréable. Vous avez des musiques qui sont vraiment très agréables à écouter. Il y a cette sensation d'exploration, il y a aussi une sensation un petit peu de vide quand même, parce que vous n'allez pas rencontrer 250 ennemis différents, vous ne croyez pas dans un Monster Hunter ou dans un jeu de World of Warcraft ou et compagnie. Vous allez vraiment prendre le temps, et des fois vous allez vous retrouver tout seul en train d'essayer de chercher quel est le meilleur trajet pour atteindre votre objectif. Et ça donne vraiment quelque chose d'immersif. Vous allez pouvoir descendre vraiment avec votre personnage dans l'abysse et vous retrouver tout seul face à la dangerosité de l'abysse, et c'est vraiment hyper agréable. Alors, pour moi en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant à développer. Donc moi je vous le conseille. Je vous conseille à la fois l'animé, dont la deuxième saison doit être disponible sur différentes plateformes de simulcast. Je vous conseille le manga, qui est vraiment très très bon, disponible aux éditions Ototo. Et puis je vous conseille ce jeu vidéo, Made in Abyss Binary Star Falling into Darkness, qui est disponible à la fois sur PC, Switch et PS4. Puisque j'ai vraiment adoré Made in Abyss et que je vous disais que les musiques étaient très très bonnes, et ben je vous permets là de découvrir l'opening de la saison 2 sur Radio G, et on se retrouve dans quelques instants. Radio-G. 101.5 FM. Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, comme le petit monsieur vient de vous le dire, c'est toujours la case de Seb. Et vous venez d'entendre l'opening de Made in Abyss, le deuxième opening, qui s'appelle Katashi, qui était chanté par Riko Azuna. J'espère que ça vous a plu. C'est le moment de faire un petit peu de copinage. Voilà, vous savez que Angers est une terre de dessinateurs, Angers et les alentours. Et j'ai deux albums à vous parler, des albums de personnes qui sont du coin. Et qui sont vraiment sympas. J'hésite à vous parler. On va commencer avec plus du jeunesse, avec Bande de pirates de l'ami Tony Emerio et de son comparse Dominique Enbo. Des bonhommes qui ont fait qui ont fait leur mauvaise garçon il y a un petit moment et qui là ont décidé de mettre en dessin une bande de pirates. Je vois pas comment l'exprimer mieux que ça. Mais une bande de pirates, alors pas l'aspect très héroïque du pirate, mais plutôt un groupe de pirates perdus comme des poissons hors de l'eau dans un milieu complètement urbain. Et du coup, on suit un équipage de pirates complètement aux fraises, complètement à l'ouest. Et qui sont dans une ville et font n'importe quoi, mais avec ils se comportent comme des pirates, mais dans un endroit où ils ont absolument rien à faire. Donc ça donne des choses complètement barjots, sont des blagues globalement assez potaches qui marchent assez bien si on aime les côtés très très décalés, et c'est super drôle à regarder. On va avoir des vannes ça fait un petit moment que je l'ai lu, et du coup comme je prépare mal mes émissions, j'arrive pas à vraiment expliquer. On a ce côté vraiment très décalé entre des pirates très méchants et compagnie, et là ils ont pas grand chose à faire, ils ont pas grand chose à embêter en fait, puisque les gens sont moitié plus méchants au quotidien qu'eux. Ça va les amener à chercher des trésors, ça va les amener à nettoyer leur linge, ça va les amener à se trouver un repère, mais aussi à se faire bolosser par des enfants, à se faire embêtrer par la police, mais aussi à trouver l'amour. Vous verrez, c'est pas aussi simple que ça. Mais du coup, on a vraiment ce décalage complètement dingo entre vraiment l'image du pirate hirsute à la barbe flamboyante face à la mer et au vent, et au final, le vent, c'est la pluie, ses vêtements, c'est limite les vêtements ceux d'un clodo, et l'adversité, c'est une bande de mômes équipés de pistolets à peinture qui vont aller les embêter. Donc c'est vraiment un truc complètement barré. Et puis au dessin, du coup, c'est Dominique Enbo qui a déjà officié avec Tony précédemment sur décidément, j'ai tellement mal préparé cette émission que j'ai plus le nom. Les gars, je m'excuse. Sur un album précédent d'un autre éditeur, et du coup, on retrouve son coup de crayon. C'est pas un coup de crayon sale comme on peut voir chez d'autres auteurs, mais on a ce côté un petit peu. Je sais pas comment le décrire en fait. On a l'impression que c'est fait vite fait, alors qu'en fait on voit que c'est quand même bien travaillé, et il y a ce côté coup de crayon de sale gosse en fait. Les personnages ils sont petits, trapus, ils sont un petit peu déformés. On sent que les proportions elles sont un petit peu retravaillées pour avoir un personnage qui soit encore plus loufoque, on va dire, que le personnage qu'on voit. Ils sont gros nez avec du des gros nez rouges presque limite de poivreau, mais c'est pas parce qu'ils sont, ils ont froid. Souvent, ils sont dehors, ils sont juste un peu niais, et cet aspect renforce le côté un peu niais. Ils sont tout nez guenillés, on sent bien l'aspect crado, on va dire, du personnage, sans pour autant que le dessin soit crado, donc ça marche vraiment bien. Et puis il y a les couleurs qui sont travaillées pour être un peu Encore une fois, j'ai l'impression de descendre la BD quand je dis ça, mais qui sont un peu fades. Vous serez pas sur un dessin qui va vous claquer à la tronche complètement, mais il y a ce côté très cartoon, très travaillé sur les couleurs en fait pour avoir un aspect un peu on a un peu de dépit en fait en regardant le dessin, alors qu'en fait tout colle dans l'ambiance. Donc c'est vraiment un truc qui est super cool, c'est super drôle, ça marche pour les enfants, c'est même eux le public de destination en priorité, et c'est vraiment vraiment très sympa. Donc si vous avez l'âme d'un pirate et que vous n'avez pas de bateau, faites comme cette bande de pirates et lisez et partez voguer en mer pour défendre votre butin plutôt que la veuve et l'orphelin. C'est publié aux éditions d'Argo et c'est de Tony Emerio et Dominique Henbo, et je ne saurais que vous conseiller non seulement de lire Bande de Pirates mais aussi de lire toutes leurs autres publications, puisque si vous aimez Les Sales Gosses, je pense qu'avec ces deux là vous serez servi. On va passer à un autre registre, toujours un peu de copinage quand même, puisqu'on va passer avec Les Veuves Électriques, de Rollum au scénario, de Geoffroy au dessin et de Griff à la couleur. Je pense que ça doit être comme ça. C'est le tome 2, ça s'appelle La Fontaine aux Sources. C'est sorti il y a un petit moment, sorti un peu avant les vacances, mais j'avais pas eu le temps de le lire. Et je dois avouer quand même que je n'avais pas lu le tome 1. Alors vous allez me dire, mais c'est peut-être dur en fait d'enchaîner. Non, ça marche très très bien. On comprend ce qui se passe. Il y a quelques éléments qu'on n'identifie pas forcément, mais vous pouvez voir que c'est vraiment très très bien. De quoi ça parle ? Eh bien, ça parle d'un groupe de femmes dont les maris ont perdu la vie dans une centrale nucléaire, et ce groupe de femmes en fait a gagné une certaine notoriété. Et au début de l'album, elles viennent d'enlever le directeur de la centrale nucléaire. Et puis, par un concours de circonstances, ce groupe de femmes va se retrouver dans une ville, alors pas celle qu'elle visait au départ, mais une ville dont toute l'eau a été privatisée par une entreprise, mais grande, donc une entreprise on va dire d'embouteillage d'eau, un vendeur de plastique, comme on pourrait l'appeler. Et Grand Prince, cette entreprise, octroie une certaine réduction aux gens du village, puisque toute l'eau qui devait arriver dans votre robinet, dans votre douche, dans vos toilettes, elle est privatisée, donc faut la payer à l'entreprise. Mais du coup, il n'y a plus rien qui coule au robinet. Donc on vous octroie la possibilité d'avoir des packs d'eau pour pouvoir remplir manuellement votre chasse d'eau, manuellement votre douche, et tout ça bien sûr alors que avant c'était payé et puis directement au robinet par la communauté. Alors je ne vous cache pas, vous le découvrirez aussi dans le livre, que si cette société a pu privatiser, c'est qu'il y a aussi des magouilles politiques dessus. Et puis les gens de ce village, ils se disent que ce serait bien quand même qu'ils soient accompagnés pour défendre leurs intérêts. Et que c'est bien ce qu'elles ont fait, ces femmes qu'on surnomme les veuves électriques, vis-à-vis de la centrale nucléaire. Et ce serait bien qu'on prenne exemple sur elles. Qu'est-ce qu'elles font dans notre village ? On va pouvoir prendre conseil et s'appuyer sur elles. Et du coup, c'est hyper cool de se rendre compte que ces personnages-là vont inspirer une révolte villageoise dans ce tout petit village. Alors, je peux pas parler plus des personnages d'origine puisque je les ai découvertes avec cet ouvrage-là. Par contre, je peux vous assurer que tous les personnages sont truculents. Il y a un dessin qui fonctionne très bien, alors qui est de Damien Geoffroy, qui est quelqu'un que je connais bien et qui est vraiment hyper agréable, et qui là a réussi à faire des caricatures, mais de manière subtile. Alors en fait, on reconnaît bien certaines personnes tout en se rendant compte qu'elles sont pas tout à fait comme ça dans la vraie vie. Mais le point est suffisamment appuyé pour que ça impacte, et puis qu'on puisse faire un regard frais sur l'actualité qu'on va avoir, notamment au niveau des politiciens qui sont tous complètement véreux, tous complètement omnibulés, soit par l'argent, soit par les résultats électoraux. Et ça marche bien. On reconnaît certains hommes politiques existants, même si c'est pas les noms et que c'est pas vraiment les têtes. Hein, je le dis. Alors si vous aimez les complots, ça ne peut que vous conforter dans l'idée que tout se pourrit, tous les politiciens ne pensent qu'à leur fric et rien d'autre. Là dans l'album, on a vraiment des exemples très très parlants. Tout est poussé dans l'extrême, c'est une caricature quand même jusqu'au boutiste, notamment dans certaines décisions qui deviennent complètement absurdes, le devenir de la centrale nucléaire par exemple. Je vous laisserai découvrir ce qu'il advient. C'est tellement dingue que ça en devient presque même crédible que ce genre de situation puisse arriver un jour. Donc c'est vraiment cool. Et puis le scénario, ça fonctionne bien. C'est pareil, on pousse dans l'absurde les choses pour montrer l'absurde du quotidien par l'extrême, et ça marche très bien. On passe un bon moment. C'est une BD qui est quand même assez bavarde, mais ça se lit facilement. On s'ennuie pas du tout. C'est vraiment très drôle, c'est vraiment très agréable, donc c'est vraiment assez stylé. Et je vous conseillerais vraiment de lire ce tome 2 des Veuves Électriques, en espérant qu'il y ait un tome 3. C'est pas gagné. Peut-être un retournement de situation, mais la fin ne laisse pas une formidable ouverture vers une suite. On verra bien. Je vous redonne les références. C'était Les Veuves Électriques, La Fontaine aux Sources, aux éditions Delcourt. C'était de Relom, Geoffroy et de Griff. Et c'est super bien. Je vous propose de refaire une pause musicale avec un petit morceau qui va vous ambiancer, je pense, avec Rosalia et Despecha. Yeah, 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 yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con toda mi chale. Y ando despechada, a loca. Bajé con un flow nuevo, caja, baby, hackeado. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, al final problema. Mira que fácil te lo vio decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tu mami y no está pa' ti. Mira que fácil te lo vio decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tu mami. Yo ando despechada, a loca. Bajé con un flow nuevo.
FM.
Rosalia avec Despecha, c'est pas parce que les saisons avancent que on ne doit pas encore profiter d'un peu d'été. Effectivement, ça apporte pas mal de chaleur sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes de retour dans la case de Seb. J'espère que vous avez passé un bon moment. Non, c'est pas fini, je plaisante. Là, on va partir. Je vais faire un petit point jeunesse. Comment dire ? Alors, vous avez tous certainement eu des enfants, tout de suite ou dans votre entourage, qui posent beaucoup de questions. Alors, les questions, c'est bien. Pouvoir y répondre, c'est mieux. Mais des fois, on ne sait pas faire. Donc, du coup, des fois, on pose des questions à d'autres personnes. Des fois, on pose des questions à des magazines via un courrier des lecteurs. Et il y a un magazine pour enfants qui s'appelle Phosphore, qui permet de poser des questions au courrier des lecteurs. Et ces questions, elles vont trouver une réponse. Parce qu'il y a quelqu'un qui répond à ces questions. Et ce quelqu'un, c'est un stagiaire du nom de Cheetos. Alors pourquoi Cheetos ? Parce qu'il se gave de Cheetos et que, bon, en fait, comme c'est un stagiaire, il répond pas vraiment aux questions, il fait un peu ce qu'il veut, il fait pas grand-chose, et du coup, les questions souvent sont très très mal répondues. Mais Cheetos a quand même la possibilité de compter sur sa moule domestique. Une moule qui, elle, est dans un bocal, sur un petit banc de sable, et qui, elle, est beaucoup plus intelligente que lui, en tout cas beaucoup plus travailleuse. Mais malheureusement, on est les seuls, nous, via l'intermédiaire de la BD, à pouvoir entendre ce qu'elle la raconte. Et du coup, cet album qui est publié aux éditions Bandado, c'est un petit peu un condensé des pages de questions-réponses qu'on peut trouver dans Phosphore, qui sont mises en image par Guillaume Long. Alors Guillaume Long, que vous connaissez sans doute pour son album, ses séries d'albums « À boire et à manger », ça marche très très bien. C'est globalement très drôle. On a un gamin qu'on n'a qu'une envie, c'est de baffer, mais on peut pas parce qu'il est par l'intermédiaire de cet album. Et puis, on apprend plein de choses. On apprend, par exemple, ce que c'est qu'un Deus Ex Machina, est-ce que l'huile de palme, c'est dangereux pour la santé, pourquoi on parle d'une mémoire de poisson rouge, est-ce que Cheetos a vraiment des lecteurs qui lui posent des questions, ou est-ce que c'est une invention des gens de Phosphore ? Je vous laisserai les découvrir, ces réponses, mais ça marche très très bien. C'est à picorer, hein, puisque du coup chaque page répond à une question, et c'est franchement drôle. N'hésitez pas à le passer du coup à vos ados pour montrer à quel point des fois ils sont un petit peu on va pas dire idiots, parce que c'est pas le but, hein, mais qu'ils sont parfois inconsistants s'ils se comportent comme Cheetos en se contentant de faire n'importe quoi ou d'attendre simplement que la journée soit finie pour pouvoir rentrer chez eux après l'école. C'est pas ça le travail, mais ça permet aussi de vraiment apprendre des choses de manière condensée. L'effort de vulgarisation est plutôt cool, et c'est assez rigolo, et ça permet d'avoir des choses. Alors je sais pas, hein, si c'est des vraies questions de lecteurs, moi ça me plairait, parce que c'est vraiment des questions qui peuvent être drôles. Par exemple, pourquoi une chauve-souris ne ressemble pas à une souris chauve ? Y a quelque chose de beaucoup plus complexe là-dedans. Pourquoi les gens qui sont blonds vénitiens sont pas roux ? Enfin bref. C'est beaucoup d'infos, beaucoup de contextualisation, beaucoup d'humour dans ces que ce soit dans les dessins ou dans les explications. Les explications vont être parfois assez précises, mais il y a toujours un petit truc pour casser le côté trop sérieux quand il y a trop de sérieux par le dessin, ce soit par une vanne de premier plan ou par des petites vannes qui peuvent passer en second plan qui sont plutôt drôles. C'est l'intérêt d'une vanne d'ailleurs, mais ça marche franchement bien. Donc moi je le conseille pour les jeunes. Alors ça demande quand même un certain niveau de lecture, parce que c'est quand même assez bavard vu qu'il y a des explications, mais ça fonctionne super bien. C'est Cheetos, le stagiaire de la rédac, aux éditions Bande d'Ado, et c'est de Guillaume Long. Un autre album plutôt orienté jeunesse avec Amis pour la vie, d'un scénario de Christophe Cazeneuve et Jérôme Derache, les dessins de Cécile et les couleurs de Anne-Lise Sauvêtre. Le principe de cet album-là, c'est qu'on va suivre une jeune fille qui va... comment dire, une jeune fille aveugle qui va avoir le droit d'avoir un animal. Je vais y arriver. Qui va avoir un chien de compagnie. Donc c'est. Je vais y arriver. Pardon. Cette petite fille est aveugle, donc elle a un chien guide d'aveugle. Voilà. C'est Ami qui a 12 ans et qui va découvrir en fait ce que c'est que d'utiliser la compagnie, on va dire, d'un chien guide d'aveugle, que c'est pas complètement un... Oh là là, décidément, c'est une catastrophe qui va découvrir. Je suis perdu là ce soir, dis donc. Qui va découvrir en fait la compagnie d'un chien guide d'aveugle. On va découvrir avec elle en fait ce que c'est que le dressage ou plutôt la formation d'un chien guide d'aveugle, ce qu'un chien guide d'aveugle peut faire, ce qu'un chien guide d'aveugle ne peut pas faire, et on va nous faire découvrir aussi le quotidien d'une personne soit aveugle soit malvoyante, et puis ce qui va permettre de vraiment prendre conscience de l'intérêt, on va dire, d'un chien guide d'aveugle, et pourquoi c'est quelque chose d'important, quoi. Donc c'est vraiment utile pour se rendre compte de la complexité en fait de l'accompagnement d'un chien guide d'aveugle, du quotidien d'une petite fille ou même simplement d'une personne qui est déficient visuel, et c'est hyper intéressant. Donc on va passer sur des gags, on va passer sur des petites pages explicatives, on va passer sur plein de choses qui vont permettre vraiment de comprendre ça. Donc le dessin est super fin, c'est plutôt agréable à lire, donc c'est vraiment quelque chose à mettre entre toutes les mains, et puis de permettre de découvrir un petit peu le quotidien d'une personne. C'est une catastrophe, hein. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment une très belle BD, hein. Il n'y a pas de pathos, il n'y a pas d'apitoiement, de larmoiement. C'est vraiment, on va vous faire découvrir le quotidien d'une petite fille qui vit sa cécité de manière tout à fait convenable. C'est pas, elle arrive à faire quand même plein de choses, mais qui va pouvoir avoir de plus en plus de choses à découvrir grâce à son chien guide aveugle qui va pouvoir l'accompagner. Donc c'est vraiment super super agréable, c'est vraiment super cool à lire, et c'est surtout très intéressant à découvrir, parce que du coup ça apporte plein d'informations sur la cécité, mais encore une fois sans forcément avoir le côté trop encyclopédique, tout en permettant d'avoir des choses des informations qui vont être facilement accessibles par tous les enfants. Donc c'est vraiment très intéressant, et n'hésitez pas à le lire. Donc c'est publié aux éditions Bambou, ça s'appelle Amis pour la vie, c'est de Derache, Cazeneuve et Cécile, et c'est vraiment très sympa. Je vous propose de refaire une nouvelle pause musicale avec LSD, c'est la Brand CEO et Diplo, avec la chanson Thunderclouds. Got it all. It's time. Sur le 101.5 de Radio G, c'est de nouveau la case de Seb. On est encore ensemble pendant quelques minutes. On va parler manga pour la fin de cette émission. Et le premier manga dont je voulais vous parler, je suis en train de me rendre compte que peut-être j'en ai déjà parlé dans cette émission. Alors c'est un gage de surqualité. Je sais pas si... voilà. Ça s'appelle Isekai Gourmet, c'est publié aux éditions Soleil Manga et c'est un scénario de Tomohiro Shimomura et un dessin de Sato Tsukishima. Comment dire ? Les Isekai, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, si vous vous rappelez un petit peu ce que c'est au niveau manga. Un Isekai, c'est un élément de notre monde à nous qui se retrouve projeté dans un monde souvent d'heroic fantasy et qui a beaucoup de capacités. Donc il y a certainement une explication de ce que c'est qu'un Isekai, mais du coup, là, c'est pas vraiment le cas. Là, c'est l'histoire d'un groupe d'aventurier qui est parti à la recherche d'un artefact et qui va tomber sur une espèce de grand tapis, une espèce de grande carte cette grande carte permettrait ce grand tissu permettrait d'atteindre cette espèce de couronne de sagesse qui est un artefact ultime qu'ils essaient d'atteindre. Et puis à un moment ils se retrouvent perdus dans le désert, ils sont vraiment mal en point. Ils ont plus de nourriture, plus d'eau, plus rien, et ils sont vraiment en très très mauvaise position, en mauvaise situation, peu importe. Et il y a l'un d'eux qui se rappelle que cette espèce de tissu qu'ils ont serait une sorte de tissu magique avec lequel ils pourraient peut-être se sortir de cette mauvaise situation. Et du coup, ils commencent à essayer d'invoquer quelque chose. Et du coup, ils se mettent tous autour et ils vont essayer d'invoquer quelque chose qui pourrait les sortir de cette situation. Alors, il y en a un qui pense à un truc, l'autre qui pense à un autre truc. Et puis, apparaît en plein milieu une espèce de grosse boîte. Un truc qu'ils ont jamais vu. Un élément complètement... inconnu de leur univers, un truc qui vient probablement d'un autre monde. Et là, ils vont commencer à essayer de découvrir ce que c'est. Et c'est là que nous, lecteurs, on se rend compte qu'en fait, cette espèce de tapis, c'est une sorte de nappe qui va pouvoir faire apparaître des aliments qui proviennent de chez nous. Donc là, en l'occurrence, ils sont dans le désert, et ils ont fait apparaître un pot de crème glacée, un truc qu'ils connaissent pas vraiment. Et du coup, on va suivre en fait leur pérégrination. Et à chaque fois qu'il va y avoir un besoin de nourriture, alors pas systématiquement, hein, mais c'est pas leur première idée, des fois ils vont chasser, mais on va se retrouver dans des situations où ils vont faire apparaître des choses complètement incongrues dans leur univers. Ça peut être des... je vais pas vous raconter, parce que faut vraiment, c'est ça le sel, on va dire, de ce manga, c'est vraiment de découvrir quelles sont les choses qu'ils peuvent faire apparaître pour manger et qui va donner lieu à des situations complètement barges. Alors vous vous dites, ouais, mais alors on va se retrouver toujours avec une situation, on a besoin de quelque chose, on fait apparaître quelque chose, hop, dénouement, un peu de gag. Alors oui et non, parce que du coup les situations sont un peu plus complexes, on vit vraiment les aventures d'aventuriers dans un monde d'heroic fantasy, mais ces aventuriers vont avoir besoin, à certains temps, de recours à cette nappe magique pour pouvoir faire apparaître des choses qui vont les sortir de situations difficiles. Graphiquement, c'est plutôt stylé. C'est pas foufou en termes de décor, mais c'est plutôt plaisant à regarder. Les personnages sont facilement identifiables au niveau de leur rôle. On va facilement identifier le voleur, facilement identifier qui sera plus guerrier. Et il y a des passages qui sont vraiment très très drôles puisque le dessin fonctionne bien et rend la personnalité de certaines situations de manière encore plus drôle. Je pense au passage où il se retrouve chez l'équivalent d'Orc. Il y a des situations dessinées qui sont vraiment très très drôles. Donc c'est plutôt fun et ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, si vous avez envie de regarder un manga qui change un petit peu de gens qui font des bisous à des camions pour pouvoir finir dans un monde d'heroic fantasy en étant des gros billes, bah là vous avez des losers qui utilisent une nappe, qui fait apparaître des choses super cool et c'est vraiment très très sympa. Donc n'hésitez pas. Ça s'appelle Isekai Gourmet Magical Tablecloth, donc la nappe magique, pour faire la traduction. C'est scénarisé par Tomohiro Shimomura et c'est un dessin de Sato Tsukishima. C'est une édition sur les mangas, mais j'ai déjà dû le dire. Et puis, beaucoup plus récent, vous avez un autre manga qui est publié aux éditions Nobi Nobi qui s'appelle À quoi tu joues, Ayumu. C'est de Soichiro Yamamoto. Et ça parle de jeu. Ça parle d'un jeu même qui pourrait avoir l'air rébarbatif. Ça parle de shogi. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le shogi? Eh bien, chers amis, le shogi, c'est l'équivalent japonais des échecs. Alors, quand je dis équivalent, faut aussi imaginer que là où nous, on a des pièces de formes différentes, au Japon, ils ont des pièces qui vont toutes avoir la même forme, simplement elles sont nommées différemment en fonction de leur fonction. Mais je vais revenir sur les règles après, parce que je vais vous expliquer un petit peu de quoi parle le manga. C'est un manga de à la fois de romance et de jeu de société. Et à la fois un manga sur le shogi, mais à la fois un manga sur l'amour. Pourquoi ? Eh bien parce que on va suivre l'histoire d'Ayumu, qui est une jeune fille qui est la seule ou presque pratiquante de shogi Urushi qui est la seule pratiquante et membre du club non officiel de shogi, puisque au Japon il faut un certain nombre de personnes pour être considéré comme un club. Là elle est toute seule, donc elle est présidente de son club, voilà, et elle joue au shogi quasiment toute seule, sauf que elle rencontrer un jeune garçon qui s'appelle Ayumu, qui lui joue aussi au shogi dans son club, et elle est persuadée, elle, qu'Ayumu est amoureux d'elle, sauf que Ayumu ne se déclare pas. Eh bien, laissez-moi vous planter un peu plus la situation. Ayumu est nul au shogi. Urushi est très très doué au shogi. Et Ayumu s'est mis en tête qu'il ne déclarerait son amour que le jour où il battrait Urushi au shogi. Donc, je vous rappelle, il y en a un qui est nul, une qui est vachement douée. Il y en a un qui doit se déclarer. Bref. Ce qui est rigolo, c'est que les perches sont tendues, c'est que ils sont tous les deux conscients de la situation, ils se font des passes pour arriver à vraiment dire bah vas-y déclare-toi, tiens je pourrais peut-être essayer de perdre exprès, et en fait non ça marche pas parce qu'il y a des choses qui entrent en ligne de compte, mais c'est très très drôle, c'est du je t'aime moi non plus, mais poussé dans l'absurde, dans le raisonnement du jeu d'échecs. Alors on est loin de c'est Otome Game, je crois, Love is War, où effectivement là c'est des grosses intelligences, là ils sont un peu neuneux tous les deux, mais ils vont se faire des duels amoureux par l'intermédiaire du shogi. Alors pourquoi je vous ai dit que je vous reparlerai des règles du shogi à la fin? Parce que ce manga-là va nous présenter des comptes rendus de parties entre chaque chapitre, donc qui sont numérotés selon la façon dont on numérote une partie de shogi pour en avoir un résumé. Sauf que, pour un japonais où le shogi est un jeu dont quasiment tout le monde connaît les règles, pour un occidental, c'est un peu compliqué non seulement de comprendre la notation, mais aussi de relire ce qui se passe. Eh bien, les éditions Nobinobi ont pallié à ça en rajoutant à la fin un petit lexique explicatif de 4 pages, si je ne me trompe pas, sur les règles du shogi. Alors je vous avoue que moi je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça, mais vraiment ça ressemble énormément aux échecs, à deux exceptions près. Il y a le principe de promotion, donc là où nous, quand on amène un pion, il peut être transformé en un autre pion sur le plateau. Là, le pion peut se transformer en ayant de nouveaux mouvements, simplement en retournant la tuile qui symbolise le pion et en faisant apparaître l'autre texte qui est noté au dos du pion. Et puis il y a un principe de de déposer, en fait c'est des pions qui peuvent revenir en partie quand on les a capturés à l'adversaire. Donc j'imagine que c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, mais en tout cas ça permet de découvrir un jeu qu'on ne connaissait pas vraiment dans nos contrées. Donc c'est vraiment très très fun, c'est pas compliqué, c'est un manga qui est très mignon, ça s'appelle À quoi tu joues Ayumu, et c'est de Shoichiro Yamamoto, et c'est publié aux éditions Nobinobi. That's all, folks. C'est pour qui annonce la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Vous avez vu, c'était un petit peu chaotique pour cette reprise. Promis, la prochaine émission sera de meilleure conception, on va dire, parce que j'aurais pris un petit peu plus de temps pour faire un vrai enregistrement. Les voix du scénarium ont aussi repris. Là, on est passé en tous les 15 jours aussi. Donc là, vous allez retrouver la case de Seb en semaine impaire de 19h à 20h. Vous retrouverez aussi les voix du scénarium en semaine paire de 22 à 23h le mardi. Donc j'espère que vous passerez de bons moments en ma compagnie, que vous ferez de belles découvertes. N'hésitez pas, si vous avez lu des choses dont vous voulez que je parle, ou si vous voulez venir parler dans l'émission de choses qui vous ont plu, on va essayer de faire ça au mieux. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Vous allez pouvoir retrouver le podcast de l'émission sur le www.radio-g.fr. Et puis n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Kaizoku Oni ! Ore wa naru !